Paul-Simon Andy, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous été surpris par la décision du Niger de rompre sa coopération militaire avec les Américains ?
J'ai été surtout surpris par le ton, par la forme, et peut-être pas par la décision en elle-même qu'on voit poindre à l'horizon depuis un certain moment, et le gouvernement du Niger n'étant pas à son premier coup d'éclat. Disons que ce n'était pas une surprise totale, mais la forme, il faut dire, est plutôt surprenante.
Oui, puisque les Nigériens accusent les Américains de condescendance, voire d'arrogance.
Oui, n'ont pas eu la courtoisie de recevoir une délégation qui était dans leurs murs, et ont utilisé un ton très peu diplomatique pour exprimer leur mécontentement, mais selon les dires des Nigérians, la condescendance de la partie américaine était à peine supportable.
Sur le plan stratégique, est-ce que c'est un coup dur pour le dispositif américain AFRICOM ?
Alors, il faut dire que c'est un coup dur, certainement pour les deux parties, parce que même si le Niger décide de manière souveraine de renoncer à l'accord signé en 2012, le Niger perd énormément, déjà. Cet accord prévoyait de la formation, il prévoyait un appui en renseignement, un appui en équipement. L'armée nigériane, au terme de cet accord, est dotée de transports aériens, d'avions C-130, qui sont importants dans toute opération. Pour la partie américaine, il y a de vraies pertes aussi. C'est un coup dur, définitivement, parce que la base américaine d'Agadez est certainement l'une des plus importantes bases américaines en Afrique, après celle de Djibouti. Cette base de drones permettait naturellement pour les Américains de recueillir du renseignement et des informations utiles à la lutte contre les groupes extrémistes violent, mais aussi certainement contre toutes sortes de trafics illicites et les migrations aussi.
Et vous pensez à la Libye ?
Et on pense naturellement à la Libye, à la frontière du Niger avec la Libye aussi. Le Niger perd là certainement un moyen important d'avoir des informations sur ce qui se passe à sa frontière avec la Libye, et les Américains à terme perdront un énorme moyen de renseignement sur les mouvements en Libye et autour de la Libye.
Alors depuis le putsch de juillet dernier au Niger, les Américains s'était désolidarisé des Français afin de ménager la nouvelle junte de Niamey. Comment expliquez-vous que malgré ces précautions, les Américains subissent aujourd'hui cet échec ?
Disons que les Américains avaient peut-être mal apprécié la nature des militaires au pouvoir au Niger. On aurait pu penser au départ que c'était un coup stratégique de la part de la junte de vouloir diviser les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, s'aligner la France pour mieux se rapprocher des États-Unis. C'est ce qu'on aurait pu penser. Mais pour les États-Unis, c'était un pari difficile à tenir avec une junte militaire qui est pratiquement en contradiction avec toutes les normes et les idéaux démocratiques que représentent les États-Unis. Donc, il était difficile pour les Américains de tenir cette position sans entrer en contradiction avec leurs principes.
Et justement, l'une des demandes des Américains, en échange de leur maintien à Agadez, c'était le retour du Niger à la démocratie et la libération du président Bazoum. Est-ce que cela a pu indisposer le général Tiani et la junte de Niamey ?
Oh, je pense qu'il y a plein de choses qui indisposaient le général Tiani parce que les Américains avaient littéralement les mêmes demandes que les Français. Les seules différences étaient peut-être sur le ton, mais du moment où les Américains ont commencé à appuyer sur la demande jugée inacceptable de renoncer à la coopération avec la Russie et l'Iran pour les militaires au pouvoir à Niamey, c'était certainement la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir.
Selon le journal Le Monde, les militaires américains auraient exigé qu'à l'avenir, ils ne soient pas sur le même terrain que les militaires ou les paramilitaires russes. Est-ce que cette exigence vous paraît crédible ?
Il est très probable, lorsqu'on entend les déclarations du porte-parole du gouvernement de transition au Niger, qui dit à peu près la même chose. Il est probable que les Américains, forts de ce qu'ils croyaient être le soutien de la junte, aient pu avoir des exigences que la junte estimait tout simplement inacceptables. Si c'est vraiment le cas, je pense que les Américains ont certainement fait un faux pas. Faut pas parce qu'il ne faut pas prendre pour juste un coup de sang la perception, notamment par les jeunes militaires, mais aussi par une frange des populations en Afrique de l'Ouest, de ce que l'ensemble des réponses nationales et multinationales à la crise multiforme au Niger n'ont pas porté de fruits. Donc il y a un grand besoin de changement, il y a un grand besoin d'essayer autre chose.
Est-ce qu'après l'annonce du départ prochain des Américains, les Russes ont désormais le champ libre au Niger ?
Je pense que oui, le Niger, voyant ce qui se passe dans un pays comme la RCA, voyant ce qui se passe dans un pays comme le Mali, même si on ne peut pas parler de succès, se dira que les Russes sont peut-être un partenaire de choix. C'est pas un partenaire qui va remplacer les États-Unis, c'est pas un partenaire qui remplacera la France, mais qui apportera un soutien militaire qui permettra au moins de gagner des batailles tactiques. Et c'est ce dont a besoin le gouvernement militaire pour démontrer ce qu'il considère comme succès aux populations du Niger.
Tous les Nigériens de plus de 40 ans se souviennent de l'assassinat du général Baré-Maï Nassara par le commandant Wanké il y a 25 ans. Est-ce que les Russes n'offrent pas à la junte au pouvoir une valeur ajoutée avec sa protection rapprochée contre toute tentative de coup d'État interne à l'armée du Niger ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que le gouvernement de transition au Niger, comme dans d'autres pays du Sahel où il y a eu des coups d'État, je pense qu'il veut s'installer dans la durée sous le prétexte de vouloir réformer. Ils veulent s'installer dans la durée. La coopération avec les Russes offre ainsi une sorte de protection qui pourrait assurer littéralement un mandat de 5 ans à ces juntes militaires. Donc oui, la coopération militaire avec la Russie qui est moins contraignante en termes de redevances démocratiques, de normes de bonne gouvernance, cette coopération russe est de ce fait beaucoup plus utile aux juntes au pouvoir, qui s'installent dans la durée et ce qui, pour moi, constitue la véritable inquiétude.
Donc on peut parler aujourd'hui de retournement d'alliance au Niger ?
On peut parler d'un processus qui mène à un retournement d'alliance. Lorsqu'on entend le ton ferme du gouvernement de transition militaire, on peut se dire que là, c'est un point de non-retour. D'ailleurs, il y a une pointe d'ironie à entendre un militaire qui a pris le pouvoir par la force déclaré comme illégal et anticonstitutionnel un accord signé précédemment, alors que l'acte qui le mène au pouvoir est un acte illégal et anticonstitutionnel.
Paul Simon Andy, merci.